Dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio.
On est de retour dans notre segment Habs Radio tous les mardis et tous les jeudis avec Denis Gauthier. Comme d'habitude, les jeudis, Éric Auziel est là. Il va assister à cette conversation-là. Tellement l'admiration qu'il a pour Denis Gauthier. Oui. Là, je vous ai déjà dit ça à plusieurs reprises. Alex Lantour à la mise en onde. Denis, bonjour, comment ça va?
Bonjour Tony, bonjour Eric, salut tout le monde. Salut. Puis je dois avouer que l'admiration est réciproque.
Merci. Et Tony, j'ai de l'admiration pour Denis en tant qu'observateur de hockey, en tant qu'analyste, puis en tant qu'ex-joueur, mais aussi parce que je sais qu'à l'interne, c'est un gars très généreux.
Oui.
Dans l'entourage des Voltigeurs de Drummondville qui vont très bien cette année, mais c'est un gars très généreux, puis il ne demande aucune publicité pour ça. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour Denis.
Mais j'aurais pu te dire ça même sans le savoir,
voilà,
parce que...
c'est ça.
Denis is a good guy, je le sais. Denis, là, je n'ai jamais sorti prendre un café avec lui ou un bière avec lui.
Ouais.
Mais je connais quelqu'un qui est une bonne personne quand je le vois, puis Denis Gauthier en est un. Maintenant, Denis...
Vous êtes pas mal gentil, merci
Denis.
Merci beaucoup.
Merci. S'il y en a un ici qui sait c'est quoi être un joueur dans la Ligue nationale, puis sait c'est quoi... mais si, il sait c'est quoi exactement.
C'est sûrement pas toi et moi, ni Alex.
À 30 heures de la date limite, ouais, des transactions, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là, t'as déjà passé par là. Donc, parle-moi, premièrement, pour toi, des expériences que toi, t'as eues la veille de la journée de la date limite des transactions.
Ouais. Ben, j'ai déjà été nerveux avant la date limite des transactions dans des situations où je voulais pas quitter. Mes années à Calgary ont été, j'étais très heureux, je faisais partie d'une reconstruction. Fait que c'est certain que je voulais faire partie de la solution. J'ai des transactions, des périodes de transactions où j'étais dans les rumeurs, j'ai pas quitté. Il y a des années où j'étais en Arizona aussi, je voulais pas quitter et j'ai été changé à date limite des transactions. J'ai vécu exactement. En fait, pas exactement, mais j'étais dans les mêmes suites que Jake Evans était avant la signature de son contrat cette semaine. J'étais en négociation pour une prolongation de contrat, puis on m'avait fait des suggestions et des promesses de dire qu'il n'y aurait pas de transaction sans qu'on se reconsulte, parce que, bon, moi, je voulais rester, l'équipe voulait me garder, puis on s'entendait pas sur la valeur monétaire d'un contrat, mais il reste que l'agent mettait une certaine pression avec l'association des joueurs pour augmenter le salaire, puis moi, dans ma vision à moi, j'étais un peu comme Jake Evans, j'étais prêt à prendre un peu moins pour rester sur place parce que j'étais heureux. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'on est parti sur un voyage de deux matchs, on partait, si je me souviens bien, c'est Columbus et Détroit, deux matchs en deux soirs. Et le matin du match du premier match d'un back-to-back, ben j'ai été transigé là, pendant le dîner. Mon repas d'avant-match assis au milieu de tout le monde en plein lunch, j'ai reçu l'appel du directeur général qui m'a dit que je partais à Philadelphie, puis l'avion partait dans 3 ou 4 heures après. Fait que c'est un peu une situation de même. J'en ai pleuré une shot, j'étais déçu, je voulais pas partir. Ça a été un moment qui était très, très, très difficile. Mais tu sais, contrairement à Jake Evans, moi, j'étais pas pacté. Je partais avec une brosse à dents, je partais avec une chemise de rechange, des sous-vêtements de rechange parce que je partais pour seulement 2 jours. Puis, je n'ai plus jamais revu ma maison en Arizona. Ma femme a fait le pactage des enfants de la maison, on a déménagé à Philadelphie. Puis, j'ai plus jamais remis les pieds dans ma résidence. À Scottsdale.
C'est un peu mon
histoire. C'est pas facile.
C'est quelque chose. Encore, je vais revenir là-dessus une autre fois si je peux, là, avec toi, pour avoir tes impressions là-dessus. Mais Jake Evans, là, qui était dévasté depuis quelques semaines, là, comme très, très déçu. Le sourire qu'il avait, là, il en avait plus. Sa femme aussi, tu sais, il a dit bye à ses amis, je m'entends à partir, ses bagages étaient faits, les valises étaient faites, l'appartement était pour se faire peinturer pour le prochain qui s'en vient. Et là, il y a un couple de jours de ça, il se lève le matin, il appelle son agent et dit « Écoute, c'est à Montréal que je vais rester. Mm-hmm. C'est à Montréal que je veux jouer. J'aime ça ici, ma femme aime ça ici. » Donc, tu sais, fais le deal, puis that's it, là. Tu sais, je vais laisser l'argent sur la table. Puis, il nous a donné beaucoup d'informations. Il avait dit, mais quand il dit, tu sais, j'ai vu des amis, des ex-joueurs, pis ces choses-là. Moi, je pense que la visite de Tyler Toffoli, lui a dit, là, j'ai été échangé, puis là, j'ai signé ailleurs. Toffoli lui a peut-être dit, là, jamais été content comme je l'étais avec le Canadien.
Ouais.
Donc, s'il y a quelque chose que toi, tu peux faire pour rester, reste et là, il reste. Denis, qu'est-ce que tu en penses?
Ben, écoute, ça fait totalement du sens. Puis des fois, c'est très dommageable au niveau de ton de ta qualité de vie, de toutes sortes de situations dans ta vie où que tu cherches l'argent. Puis je pense que Jake Evans l'a bien mentionné, il voulait pas être greedy, il voulait pas être greedy, il voulait pas être gourmand. Puis de chasser le gros contrat, des fois d'en prendre un peu moins, puis t'es heureux, t'es bien, parce que c'est pas toujours plus vert ailleurs. Tu te retrouves d'une nouvelle organisation où on te connaît pas, on va apprendre à te connaître des nouveaux coéquipiers, puis des fois le match ou le fit est juste pas bon. Moi, je l'ai vécu, je l'ai fait, moi, avec les Flyers de Philadelphie. J'ai été changé là, puis tu sais, en bout de ligne, je pensais que à cause de l'histoire et de l'identité des Flyers de Philadelphie, je pensais que mon style de jeu cadrerait très, très bien là. Je suis arrivé là, j'étais pas nécessairement très heureux parce qu'il y avait un vestiaire qui était très divisé à l'époque, dans mes yeux à moi, dans mes yeux extérieurs. Puis j'ai décidé quand même de signer une prolongation de contrat pour un contrat qui était pour me stabiliser, je te dirais, pour moi et ma famille, pour longtemps. Puis finalement, ça s'est avéré, l'une des pires situations hockey. Ou la pire situation hockey de ma carrière. Tu sais, l'histoire le sait, j'ai été renvoyé des mineurs après qu'on ait terminé la pire saison, la pire équipe dans la Ligue nationale. On a fait des changements, c'est moi qui ai écopé, puis je me suis retrouvé un an des mineurs. J'étais pris là à cause des règles de la convention collective à l'époque, du balotage de réentrée, alors qu'on pouvait te rappeler. Fait que tu sais, c'est tout ça. Fait que tu sais, si lui était heureux, il était bien ici, le monde le connaisse, les coachs le respectent, l'organisation le respecte. C'est un gars qui est bien, qui est content et qui est fier de son rôle ici. T'sais, des fois, ça vaut la peine d'être heureux puis sacrifier quelques centaines de milliers de dollars sur une valeur d'un contrat de 3 ou 4 ans. Fait que je pense que si lui est bien là-dedans, c'est absolument la bonne décision qu'il a prise pour lui et sa famille.
Ouais, puis c'est intéressant le mot que tu utilises, sacrifier. Ouais. Une partie de son avenir, parce qu'on s'entend, on s'entend, Denis et Tony, 2 millions quelques, là, c'est très bien payé dans la société, là, ils ont plein d'autres personnes. Mais dans la valeur du marché, de nos jours, où tu as une chance, parfois deux, d'aller chercher le maximum d'argent, ce qui est très légitime, parce qu'il y a très peu de personnes sur la Terre qui peuvent faire qui peuvent être joueurs de hockey dans la Ligue nationale, tu te dis, ben, je vais aller chercher le maximum. Sauf que ça s'est déjà fait, Martin Brodeur le fait, avec les Devils, puis je pense que ça a amené à une rupture avec son agent qui était Jules Lupien à l'époque, n'est-ce pas, Denis?
Oui, absolument.
Mais ça se fait quasiment plus maintenant là, dans le sport. Là. On voit plus ça. C'est un sacrifice qu'il a fait. Puis je me questionne, Denis, si le Canadien était avant-dernier dans l'Est puis il avait pas d'avenir, est-ce que Jake Evans l'aurait fait quand même, tu sais?
Ben, c'est encore drôle. Connais-tu, voyant la direction où l'équipe allait, tu sais, mettons, si on avait perdu les 5 derniers matchs au lieu des gagner les 5 derniers, la position du Canadien aurait été totalement différente, mais au moins la trajectoire à court, à moyen, à long terme du Canadien est quand même sur une pente ascendante, dans le sens qu'on a beaucoup d'espoir, on a une direction qui fait bien les choses, on développe bien, tu as un entraîneur qui est patient, qui fait les choses correctement présentement. Fait, c'est un peu ça. Je pense que pour lui, individuellement, ça fait tellement de sens d'être ici présentement, puis de faire partie de ce... En tout cas, moi, j'aurais le goût, tu sais, comme ancien joueur, je regarde ce qui se passe présentement, puis j'aurais le goût de jouer pour le Canadien de Montréal, parce que c'est pas... T'sais, la culture, elle développe de belle façon, t'as du bon leadership, t'as une bonne communication entre ton directeur général et tes entraîneurs et ton joueur. Il y a plusieurs facteurs positifs. T'as une ville, tu joues dans un marché de hockey qui, oui, vient avec un peu de pression, on s'entend, mais c'est pas... Il y a des choses bien pires que ça dans la vie. Puis d'une position que Jake Evans, lui, est rarement critiqué, tout simplement parce que c'est un joueur de cœur. C'est un joueur qui travaille fort à tous les jours, que son éthique de travail est irréprochable. Fait que la pression n'est pas sur un gars comme Jake Evans. Puis le fait que lui est ici dans une équipe gagnante, si Jake Evans est, qui pour moi a signé un contrat qui est absolument, je vais dire, avantageux pour le Canadien, qui est très bon parce que je suis convaincu qu'il aurait pu avoir pas mal plus sur le marché des joueurs autonomes cet été. Il se retrouve ici dans une position ou une chaise où il a une utilité, il est respecté, il est valorisé, il aime ce qu'il donne présentement. Lui, il passe sous le radar parce que c'est un joueur non qualifié de talent qu'il faut qu'il traîne l'équipe, mais plus un gars de caractère qui travaille à tous les soirs. Fait que les partisans respectent ça. Fait que lui, c'est une belle situation pour lui.
Denis Gauthier, de retour... À tous les mardis et tous les jeudis, évidemment, dans notre segment Habs Radio, Kent Hughes est tellement bon communicateur que moi, je suis convaincu, c'est même sans le savoir, là, Éric Causiel en studio aussi, avec Alex Lantois, la mise en onde, les gars. Moi, je suis tellement convaincu, tellement bon communicateur, je suis convaincu qu'il a déjà parlé avec Savard, puis Armia, puis Dvorak, de leur situation, agent libre, sans restriction à la fin de l'année, ou peut-être eux autres sont allés cogner sur la porte de Kent pour dire « Est-ce que t'as deux minutes, est-ce que je peux te parler, qu'est-ce que je peux m'attendre? » Est-ce qu'il a besoin de parler avec eux avant le match de ce soir ou demain matin, Denis, en voyant que la date limite des transactions, c'est demain à 15h?
Ben, la seule façon la seule raison pourquoi il a besoin de leur parler, c'est probablement s'ils sont en négociation d'un nouveau contrat, une prolongation de contrat, puis on s'entend pas sur des valeurs monétaires ou un terme pour arriver. Parce que, tu sais, les discussions, s'ils ont besoin d'avoir lieu, ont déjà été faites, les communications ont été faites aussi, il y a eu des discussions avec l'agent, avec le joueur. Donc, moi, il n'y a personne pour moi qui va se faire surprendre chez le Canadien avec les qualités de communication qui se portent présentement dans l'organisation. Que ça soit dans un échange, que ça soit dans une prolongation de contrat, on va savoir à quoi s'en venir. La seule façon, c'est ou dire, regarde, ton agent demande ça, moi, c'est ce que je peux te donner, c'est toi en bout de ligne qui décide. Exemple, si on décide qu'on veut signer Armia pour une prolongation de contrat, regarde, ton agent demande, je donne des chiffres fictifs, là, 3 millions par année, moi, je suis prêt à te donner 2,25. Tu sais, c'est toi qui as la décision finale. Tu laisses ton agent décider. Si c'est ça, je te transige. Sinon, toi, est-ce que tu es prêt à regarder et à accepter moins pour rester parce que tu es heureux ici, parce que tu peux faire partie du Canadien à long terme? Fait que je te donne l'opportunité de me le dire là. Puis sinon, bien, regarde, on ne s'entendra pas. Je vais être obligé de regarder les marchés de transactions puis de bouger. Fait que c'est des genres de conversations qui peuvent arriver. Moi, ça m'est arrivé en Arizona avec le directeur général là à l'époque. Mais la transaction... En fait, la communication avait été très bonne jusqu'à temps qu'il se vire de bord puis qu'il fasse d'autres choses, mais jusqu'à ce point-là, j'avais eu l'opportunité de d'accepter un contrat moindre, mais avant que j'aie la chance d'en parler avec mon agent, j'avais déjà été transigé. Fait que, mais je suis convaincu que c'est pas le genre de situation à Montréal.
Les quatre matchs dans l'Ouest, là, parce que Gilbert Delorme, il a dit ce matin, là, les Canadiens jouent leur match le plus important de la saison ce soir, là. Puis je comprends le point de Gilbert, puis j'imagine que samedi soir, on va dire la même chose. Puis mardi, la semaine prochaine, on va dire la même chose. Là. Mais est-ce que toi, quand tu regardes le calendrier, écoute, c'est un calendrier tellement difficile dans le mois de mars, là. Quand toi, tu regardes le calendrier, le Canadien a quelques points de la place de wildcard, 2 points du deuxième place, 3 points du première place de wildcard. Ce soir à Edmonton, samedi soir à Calgary, mardi soir à Vancouver, mercredi soir à Seattle. Est-ce que tu regardes ça pour dire... Le Canadien joue les séries sa saison là, où t'es pas prêt à dire ça parce qu'il va rester encore 17 matchs après ces 4 matchs-là.
Ben, écoute, on peut sortir de la course, à mon opinion, là, si tu perds 3 ou 4 des prochains matchs. Je pense pas que tu vas faire les séries si tu gagnes les 3 de 4 ou 4 de 4. Il y a rien qui va t'assurer que tu vas être là à la fin. Mais tous les soirs, à cause de la position dont on est là, à cause de la course des équipes autour de nous, évidemment, chaque match... Le match le plus important, ce sera toujours le prochain, jusqu'à temps qu'on ne soit plus dans une série ou qu'on ait concrétisé notre place en séries éliminatoires. Donc, c'est sûr que tu regardes ça sur un ensemble, ça peut paraître gros, ça peut paraître intimidant de jouer 4 matchs contre des équipes de l'Ouest, un voyage qui est très important, absolument. Mais c'est juste l'important présentement, c'est pas de se sortir de la course en échappant 3 des 4 ou 4 sur 4 pis, ou de coller des séries de défaites, puis ça va être dévastateur. Parce que le problème avec le reste du calendrier du Canadien présentement, c'est que tu as des équipes, tu joues beaucoup de matchs contre des équipes avec lesquelles tu n'es pas directement impliqué dans la course au séries éliminatoires. Des équipes que tu dois passer par-dessus, tu n'en as pas beaucoup. Fait que tu as le voyage dans l'Ouest, tu vas jouer contre les Panthers, contre les Blues de Saint-Louis, tu vas jouer contre la Caroline, la Rétée, ce mois-ci, ce sont pas des équipes lesquelles tu es dans la course directe avec eux, l'Avalanche aussi. Fait que les points sont importants, mais tu es toujours un peu vulnérable ou imputable versus les résultats des équipes qui sont dans la course impliquées directement avec toi, qui sont trois postes en avant ou 2 ou 3 postes en arrière. Fait que l'important, c'est le Canadien, c'est de concentrer sur eux, concentrer sur le prochain match, puis essayer d'éviter les séries de défaites de 2 ou 3 matchs consécutifs.
Parlant de prochain match, Denis, on pense quoi des Oilers d'Edmonton? Je regarde leur fiche, là, 3-7-0 à leurs 10 dernières, qui est une équipe, bon, on a beaucoup d'attentes envers elle parce qu'ils ont perdu en 7e match de la finale de la Coupe Stanley. Est-ce qu'on doit être inquiet à Edmonton?
Je te dirais oui. Tu sais, je pense qu'ils vont trouver une façon de coller des victoires d'ici la fin de saison. Je pense qu'ils vont, tu sais, ils vont se mettre dans une position plus favorable, puis ils sont là. Il y a peut-être, le problème, c'est souvent la même chose. Ça, c'est défensif, c'est gardien de but, c'est profondeur. Tu sais, Edmonton, puis tu sais, est-ce qu'on s'est menotté avec quelques gros contrats qui empêchent les Oilers de, justement, d'aller chercher ce genre de profondeur-là qui va aider, puis et où t'as pas les gens en place pour avoir la créativité comme un Julien Brisebois à Tampa Bay, disons, pour faire les gestes nécessaires. Des fois, des décisions qui sont plus difficiles de laisser partir des gars qui sont aimés, mais pour le bien de l'équipe, t'as peut-être pas ce genre de créativité-là, de personnalité-là qui mène la barque-là. Fait. C'est difficile à mettre le bobo dessus, mais en bout de ligne, c'est deux joueurs qui vont dicter le succès ou les insuccès de cette équipe-là, c'est McDavid, c'est Draisaitl, et le reste doivent embarquer. Mais quand t'as pas les chevaux pour être capable de supporter ça, c'est qu'à un certain moment donné, la charge est trop lourde pour les Oilers. Puis, il y a le terme anglais toujours, qui j'ai pas comment le traduire en français de façon littérale, mais c'est « you can't outscore bad defense ». Fait que tu peux pas scorer plus de buts qu'une équipe qui joue défensivement horrible ou qui en accorde beaucoup parce qu'ils n'ont pas les gardiens de but pour faire le travail. Fait que c'est très lourd présentement, je pense.
Denis, je vais nous ramener vers la date limite des transactions. Je lisais les commentaires des gens qui nous écrivent sur la messagerie texte et sur le YouTube. Ouais. Je vois énormément le nom de Trevor Zegras qui revient, à savoir si c'est un gars qui pourrait intéresser le Canadien. Puis j'étais curieux d'avoir ton opinion. Est-ce que pour toi, ça vaudrait la peine de sacrifier espoir, choix, un Joel Armia, passer un Logan Mailloux dans une transaction, un Joshua Roy, peu importe, mais de bouger, d'envoyer quelque chose vers Anaheim pour acquérir Trevor Zegras?
Écoute, ça dépend toujours du rôle que tu veux lui donner, puis la place-là, mais c'est quoi le mot qu'on emploie beaucoup à Montréal depuis quelques années? C'est culture. Puis est-ce qu'un gars comme Trevor Zegras rentre dans la culture que le Canadien veut bâtir ici présentement? C'est un gars qui a du talent. C'est un gars qui, je pense, le talent qu'il a, sa production offensive est probablement moins haute que son plafond nous aurait laissé croire. C'est un gars qui n'a jamais marqué plus que 23 buts dans la Ligue nationale. Puis c'est un gars pourtant qui est capable de faire toutes les entourloupettes pour marquer des buts, les buts lacrosse, passer entre les jambes. Tout est beau et spectaculaire. Mais quand c'est le temps de jouer au hockey, puis de jouer en série, puis tout ça, il l'a pas prouvé, il l'a pas montré parce qu'il a pas eu l'opportunité. Mais je suis pas sûr que c'est le genre de gars qui cadrerait puis que j'irais, tu sais, dépenser beaucoup pour aller chercher. Cela dit, c'est peut-être que les dépisteurs professionnels l'ont à l'œil depuis un certain temps, puis ils disent « Ouais, finalement, il a juste besoin d'une opportunité, il a besoin d'être encadré, peut-être un peu plus de leadership autour de lui, parce qu'en même, on est une équipe qui est très jeune, puis peut-être un peu moins de leadership. » Peut-être qu'on a cette réflexion-là, mais c'est pas le premier gars que j'irai chercher à Montréal présent.
Je m'amuse, là, mais si t'es Kent Hughes, qu'est-ce que tu sors de ton portefeuille? Qu'est-ce que t'es prêt à sortir de ton portefeuille pour aller le chercher? Sachant le joueur qu'il est en ce moment-là.
Écoute, je me déshabille pas certain. Je sais qu'il y a un prix à payer. Ça va te coûter un espoir de probablement de premier plan. Ça va te coûter un choix de première ronde au moins. Mais à partir de là, est-ce que tu dis le joueur vaut la chandelle? C'est un gars qui a joué 31 matchs l'année passée. Il y en a seulement joué 36 cette saison. Écoute, pour vrai, un espoir, un choix de 1 maximum. Mais ça, j'ai pas eu de réflexion. Tu me poses ça, je te réponds rapidement.
Non, je sais, c'est ça.
J'y vais juste avec. Ça va faire du sens de mettre au moins ça parce que je sais que les attentes d'Anaheim, ils le feront pas pour un choix de 2. On se comprend. Fait qu'eux, ils vont aller chercher le gros lot. Fait que c'est ce que ça va prendre probablement pour sortir Zegras d'Anaheim.
Denis, moi, je vais te poser deux questions vite avant de se laisser.
Ouais.
Si le Canadien poursuive Dylan Cousins et les Sabres, avec raison, demanderaient pour un Michael Hage qui a eu 75 points avec le Chicago Steel l'an passé dans les USHL. Il a 33 points en 31 matchs cette année avec l'Université du Michigan. A été un choix 21e overall, première ronde 2024. Est un joueur de centre droitier de 18 ans. On dit qu'il a le potentiel pour être un centre top 2 pour le Canadien pendant plusieurs saisons. Et ce, peut-être à partir dans les prochains 3 ans de ça, 2-3 ans de ça. Mm-hmm. Est-ce que tu ferais cet échange-là si tu es Kent Hughes?
Ben écoute, la dernière affaire que je veux faire, c'est évaluer Hage avec Hockey DB. Tu comprends? Non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que les stats sont impressionnantes, mais tu sais jamais ce que le joueur va faire à la prochaine étape. Comment est-ce qu'il va être capable de s'adapter? Tu sais, si on dit qu'il est centre numéro 2 d'ici 3 ans, d'après moi, le Canadien va vouloir gagner avant 3 ans. Puis est-ce qu'il va être prêt à faire un joueur d'impact puis prendre la charge de jouer avec des Slavkovski, avec des Demidov, avec des joueurs de ce calibre-là, puis être prêt à gagner à l'âge de 21 ans? Peut-être que oui. Mais aujourd'hui, tu sais ce que Dylan Cousins est, tu sais ce qu'il a fait à date dans la nationale. Tu penses qu'il est capable de sortir, qu'il a besoin de sortir de Buffalo et changer d'environnement. Fait que le plafond est élevé. Moi, c'est Dylan Cousins, c'est un gars qui... Il vient avec un gros salaire, je pense que c'est 7,1 millions.
Exact.
Le seul affaire, c'est, je l'ai vu jouer cette semaine, puis tu te dis, c'est un gars qui joue découragé, c'est un gars qui des fois, qui a des séquences de jeu qui est un peu paresseux. Mais c'est un gars qui a besoin de changer d'environnement. Tu regardes la situation où c'est lui qui a marqué ou qui a contourné Jack Eye en deuxième période, tu te dis, oh, OK, il y a quelque chose de spécial dans ce gars-là. Fait que, j'aime mieux prendre une chance sur un gars qui est établi, qui l'a prouvé, puis que je sais ce que j'agite, puis peut-être prendre le risque d'échanger un gars comme Age, puis dire peut-être qu'il va devenir ça. Un, tu le sais, l'autre t'espère. Mais à cela dit, tu sais, c'est pas Age tout seul, ça prend des choix, ça prend des jeunes. Fait que je serais tenté d'explorer cette avenue-là, c'est sûr, mais sans dire que je le ferais assurément.
Donne-moi un nom. Un nom, t'aimerais voir le Canadien montrer l'intérêt envers un joueur, un nom, d'ici demain.
Ben écoute, pour moi, Dylan Cousins, c'est lui que je parle depuis un certain temps. C'est un gars que je pense qu'il a besoin de changer d'environnement. La seule chose qui me décourage dans son cas, pour vrai, c'est j'ai entendu Martin Biron à Hockey 360 cette semaine parler de lui, puis il y avait beaucoup de ressemblances à Kirby Doc. Moi, puis mettez lui, il le voit tout le temps. Moi, je le vois pas souvent. Fait que tu sais, je vais faire confiance à Martin Biron, mais pour moi, je trouvais qu'il c'est un gars qui cadrait tellement bien en fait joueur de centre, gros bonhomme. Un vrai top 6 dans la Ligue nationale, jeune, il rentre dans le cadre d'un groupe d'âge qui était là. Fait que je pense une transaction hockey qui ferait du sens. Mais cela dit, moi, je pense que une transaction hockey pour remplir ce trou-là, il va se faire cet été au repêchage.
Je te laisse avec quelque chose. Hier, le Lightning de Tampa Bay ont fait l'acquisition de Oliver Bjorkstrand et Yannick Gourde. Au moment de l'échange, Denis, je faisais un podcast avec Craig Button.
Ouais.
On a vu l'échange passer, puis on a entendu comme quoi il y avait des choix de première ronde, des choix de deuxième ronde. Tu sais qu'est-ce que Craig Button m'a dit live, là, en onde, en direct? Il m'a dit, si moi je suis Seattle, je demande pour Ethan Gauthier.
Mm-hmm. Ben, écoute, je suis content qu'Ethan soit parti de cette transaction.
Non, non, mais ça doit faire plaisir d'entendre qu'on on parle de première ronde, puis deuxième ronde, puis la première chose qui sort de la bouche de Craig Button, si moi je suis Seattle, je demande pour Ethan Gauthier. Peut-être l'ont demandé pour, mais évidemment, peut-être. Il n'a pas été donné. Ouais. Mais ça doit faire plaisir, ça. Hein?
Ça fait très plaisir. Puis tu sais quoi, c'est quand même ironique et drôle parce que Yannick Gourde est un gars que j'ai mentionné à mon fils qui pourrait se modeler sa game autour de. Fait que tu sais, un qui n'est pas été changé contre lui, c'est super. Deux, peut-être d'avoir l'opportunité de le côtoyer dans les prochaines saisons, les prochaines saisons mortes durant l'été, les camps d'entraînement, tout ça, puis de l'avoir de plus près. Pour moi, ça serait un bel exemple pour Ethan de suivre. Fait que je suis content qu'il soit là. Puis cette transaction-là, pour moi, a fait une tonne de sens. Puis j'étais pas tant surpris. Yannick Gourde n'a jamais voulu quitter Tampa Bay. C'est un gars qui a eu énormément de peine, puis qui est allé dans le on parlait de joueurs plutôt dans notre conversation où on chasse l'argent un peu. Yannick Gourde a profité de cette situation-là pour aller chercher un gros, gros contrat. Puis en bout de ligne, était peut-être pas le plus heureux dans les circonstances. Il était déçu de partir de Tampa Bay. Content de revenir là, dans cette situation-là. Je cherche la profondeur avec Bjorkstrand aussi. Puis ça cadre tellement bien avec la philosophie de Julien Brisebois, Mathieu Darche, qui, eux, ils ont des valeurs attitrées à des choix de repêchage. Pour eux, ça a plus ou moins de valeur parce qu'il n'y a aucun choix de repêchage qui est assuré de jouer dans la Ligue nationale. Que tu sois un choix de premier tour ou septième tour, ça n'a aucune différence. Tu n'as pas d'assurance que tu vas faire une carrière dans la Ligue nationale, tandis que tu es échangé présentement, puis d'aller chercher des valeurs sûres, des gars qui savent qu'ils peuvent jouer dans ton ligne, mais contribuer. Pour eux, ça fait du sens. Puis tant aussi longtemps qu'ils auront un noyau aussi solide qu'ils ont là, avec des Kucherov, des Point, des Hedmans, Vasilevski, c'est la philosophie, je suis convaincu qu'ils vont continuer d'emprunter.
Merci beaucoup, Denis, puis bon date limite des transactions demain, on se parle mardi.
Salut, bon week-end.
Bye-bye, Denis.
Salut, okay, Denis.
Bye.